la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
J'ai vu Kika, le dernier film d'Alex Poukine au cinéma. Elle y met en scène une assistante sociale, une jeune femme qui vit avec son conjoint et sa fille. Elle, Kika, se retrouve un jour enfermée dans l'atelier d'un réparateur de vélo avec le dit réparateur et c'est le coup de foudre. Ils se fréquentent ensuite pendant plusieurs mois dans un love hotel puis finissent par se mettre ensemble jusqu'à ce qu'ils décèdent brutalement. À partir de là, Kika bascule de l'autre côté, du côté de celui des gens qu'elle accompagnait. Elle a besoin d'argent vite, très vite, et se retrouve confrontée à sa propre précarité. Elle vend une première culotte sale, puis s'initie progressivement au BDSM, découvrant alors ses propres limites et des pratiques sexuelles qui paraissent ne pas en avoir. Alex Poukine politise ainsi l'intimité. Kika s'interroge sur ce qu'elle est capable de faire ou pas, sur ce qu'elle est prête à investir d'elle pour gagner de l'argent. Se dévoilent alors des moments de sororité dans ce love hotel, avec les autres femmes qui y exercent et qui deviennent ses collègues, ses repères. Le film souligne l'aspect humain du travail du sexe. On le constate quand Kika discute avec un homme qui vient de lui lécher les chaussures et qui s'avère être finalement vétérinaire, lui montrant des photos de chiens qu'il a soignés. Kika se fait aider par ses consoeurs plus expérimentées et découvre une autre forme de soins différente de celle qu'elle tentait de prodiguer à travers son métier d'assistante sociale, malgré la rigidité du système administratif écrasant. Le film montre la manière dont la précarité transforme les corps et les décisions, mais rien n'est spectaculaire, c'est une accumulation de petites urgences, de démarches administratives qui n'aboutissent pas, et d'heures passées à bosser chez le poissonnier en plus de son 35 heures. On voit combien la frontière entre travailleur social et bénéficiaire est plus poreuse qu'on ne l'imagine, et comment le système laisse peu d'espace à ceux qui tombent, même temporairement. Entre fiction et documentaire, Kika parle donc de précarité, de reconstruction, du pouvoir de l'amitié et d'une intimité qu'on regarde rarement de près. Au programme ce soir dans la matinale, on reçoit Léo Jouvelet, le programmateur de l'Ici Demain Festival, à partir de demain, à la FGO Barbara, dans le 18e arrondissement. Ce sera en deuxième partie d'émission. À 19h35, Gabriel nous parlera du match entre la Palestine et le Pays Basque. Agathe sera également en studio pour évoquer l'impact des coupes budgétaires sur les radios associatives. Ce sera en toute fin d'émission, alors restez bien avec nous. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Mais tout de suite, on se penche sur l'état des prisons françaises et les alternatives possibles à l'incarcération en compagnie du journaliste Basile de Bure.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Pour commencer cette matinale donc, nous recevons Basile de Bure, journaliste indépendant et auteur du livre « Que le destin bascule » paru chez Flammarion en 2022. Il y est question des travaux d'intérêt généraux, des tiges et alternatives à l'incarcération. Basile de Bure est avec nous ce soir pour nous parler de l'état des prisons françaises aujourd'hui. Et à mes côtés pour mener cette interview, il y a Agathe, je te laisse la parole.
Basile de Bure, vous avez aussi résumé cette enquête dans un petit livre d'une trentaine de pages publié l'année dernière chez Lamartine Jeunesse. C'est un précis de 30 pages d'une grande qualité pédagogique puisque cette collection Halt peut se lire à partir de 15 ans. Et ça, c'est peut-être dû aussi à votre parcours. Parce qu'en 2016, tout bascule lorsque la mairie de Paris vous propose de faire de l'éducation aux médias à des personnes en travaux d'intérêt généraux. Vous pouvez nous raconter la genèse de cette enquête ?
Bonsoir, merci pour votre invitation. Effectivement, moi je me suis retrouvé plongé dans le monde de la justice un peu par hasard quand on m'a proposé d'animer ce stage de TIGE en 2016. C'est donc un stage qui est en fait une alternative à l'incarcération, qui a été créé par la mairie de Paris après les attentats de Charlie Hebdo. Ça s'inscrit dans le plan de lutte contre la radicalisation et l'idée c'était de faire de l'éducation aux médias avec des publics qui peuvent être susceptibles d'adhérer à des discours complotistes ou ce genre de choses. Donc je me retrouve face à des personnes condamnées alors que j'en ai jamais rencontré et je me rends compte dès le départ que j'arrive avec plein d'idées reçu. En fait, je suis terrifié. J'ai peur de me retrouver face à ceux qu'on appelle les délinquants. Je fais des guillemets avec les doigts, ça se voit pas à la radio. Et en fait, année après année, donc ça va faire 10 ans que j'anime ces stages, je me suis rendu compte que les personnes condamnées ne correspondaient absolument pas aux idées que je pouvais me faire sur eux. Je me suis intéressé à leur parcours, à leur histoire. Je me suis rendu compte de leur singularité, évidemment, puisqu'on a tendance à les enfermer dans une identité, à tous les mettre dans le même sac. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des similarités dans leur parcours, qui pouvaient être confrontés aux mêmes obstacles, avoir être confrontés aux mêmes injustices. Et c'est ce qui m'a donné envie, déjà, de raconter leur histoire, de placer vraiment les condamnés au centre de mon travail. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre qui est sorti en 2022. Et puis ensuite, j'ai eu envie de poursuivre la réflexion en m'interrogeant pour savoir si la justice était la même pour tous.
Oui, parce que ces parcours similaires, ça confirme une intuition chez vous. Parce que vous commencez par dire que vous avez enfreint la loi en conscience. Et qui ne l'a pas fait ? Mais vous vous demandez aussi pourquoi vous n'avez pas subi les mêmes conséquences. Parce que tout comme eux, vous êtes aussi un jeune homme. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas blancs et bourgeois. Et c'est le point de départ de votre enquête. La couleur de peau et la classe sociale ne nous met pas en pied d'égalité devant la justice.
Oui, en effet, on a tous enfreint la loi au moins une fois dans notre vie. Un délinquant, c'est quelqu'un qui a enfreint la loi, donc on est tous des délinquants. Et dans le discours médiatico-politique, on a plutôt tendance à utiliser cette expression pour désigner un « nous », des méchants, alors que nous, on serait les gentils. Vraiment comme si on désignait des ennemis de l'intérieur qu'il faudrait combattre, alors qu'en fait, ça nous concerne tous. Et effectivement, j'ai essayé de réfléchir dans mon parcours personnel, qu'est-ce qui m'avait poussé à m'intéresser à ces questions. Et je me suis rappelé, quand j'avais 12 ans, d'un contrôle de police, en fait, tout simplement, je suis avec des copains, on sort du collège, on est posé dans un parc, il y a une brigade de la BAC qui débarque, qui commence un contrôle. Moi, je suis le seul blanc dans la petite bande et en fait, les policiers, ils ne me regardent même pas, on ne me parle pas. Et puis au bout d'un moment, ils me disent « Allez, c'est bon, tu peux partir, rentre chez toi. » Et je m'interroge pourquoi est-ce que je n'ai pas été contrôlé comme mes potes noirs et arabes. Et ça a fait naître chez moi une intuition qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le rapport à la police. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Et j'ai essayé de nourrir cette intuition par des chiffres. Aujourd'hui, il y a une statistique qu'on connaît, c'est qu'on a 20 fois plus de chances d'être contrôlé par la police quand on est perçu comme noir ou arabe. Les jeunes que je rencontre dans mes stages, ils ont tous été contrôlés. Ça leur arrive plusieurs fois par jour. Moi, je pose souvent la question, à quel âge vous avez été contrôlé pour la première fois ? Parfois, on me répond à 9 ans. Il faut imaginer juste la violence d'un tel cérémonial. Un petit garçon de 9 ans aligné face à un mur avec une brigade de la BAC autour de lui. Moi, j'ai jamais été contrôlé de ma vie. Il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui d'une ONG qui s'appelle Flagrant Déni et qui nous montre que depuis 8 ans, les violences policières ont explosé et que les condamnations ont, elles, diminué dans le même temps. Je pense que c'est assez central dans le rapport à la justice, puisque la police, c'est le premier rapport à la justice, en fait. Donc effectivement, pour répondre à la question de la justice est-elle la même pour tous, j'ai commencé par m'intéresser au rapport à la police.
Oui, vous parlez de ce contrôle aux faciès qui est une réalité. L'État français a plusieurs fois été condamné et pourtant rien ne change. Et vous faites un lien intéressant avec le vote massif à l'extrême droite dans les corps de la police. Comment vous expliquez cela ?
Alors ouais, le chiffre, il est, si je dis pas de bêtises, c'est 60% d'intention de vote pour le Front National au sein de la police. C'est un chiffre qui interroge forcément. La question, oui, c'est celle du racisme dans la police. Est-ce que les policiers sont racistes ? Moi, j'essaye de répondre de façon différente en m'intéressant à ce qu'on appelle le racisme systémique, c'est-à-dire pas questionner les intentions, mais la chaîne d'événements dans la construction de nos sociétés qui peuvent amener un résultat raciste. Mais alors après, sur la question de la police, je pense qu'il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus. Il y a ce qu'on appelle des socialisations racistes, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la police parce qu'on est raciste, mais on peut le devenir nécessairement par le jeu des socialisations, les réflexes. On sait qu'il y a aussi une loi du silence. Les policiers qui osent dénoncer ce genre de fait, ils sont mis au banc, complètement placardisés. Donc il y a vraiment une sorte de loi du silence autour de cette question. Et évidemment, ça m'a interpellé.
Et oui, vous parlez d'un cercle vicieux, d'un serpent qui se mord la queue, parce que cette violence de la police nourrit aussi une méfiance de la part des citoyens, et cette méfiance nourrit aussi ce cercle vicieux, en fait.
Exactement, ouais. Les jeunes que je rencontre, les condamnés, ils n'ont pas du tout confiance dans les institutions de la République. Je trouve que c'est super inquiétant. Ça commence déjà à l'école. Moi, ce que je perçois, c'est qu'ils ont tous vécu leur scolarité comme une violence et une humiliation. Il y a déjà un truc qui se joue là. Leur autre rapport aux institutions, c'est la police qui vient les défier en permanence avec ses contrôles à répétition qui sont vraiment, faut le dire, hein, c'est de l'humiliation et surtout, c'est des défis en virilisme. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de je viens montrer qui est le patron. Oui. Donc ensuite, le jour où ils se retrouvent face à la justice, ils n'ont plus confiance, ils ont perdu confiance. ils se disent que ça joue contre eux, donc ils vont même pas se donner le mal de se défendre, puisqu'il y a un côté, tout est joué d'avance.
Oui, donc il y a cette idée, juge, avocat, procureur, tous pourris.
Exactement. Et en fait, si cette confiance est abîmée, ils vont même pas se donner les moyens de bien se défendre. Du coup, ça pose évidemment un problème d'équité, encore une fois.
Pourtant, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi est la même pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, cet article 6 est-il respecté ?
Alors, je pense que non, hein, sinon j'aurais pas écrit le livre, c'est ce que je dis toujours. Ce qu'il faut bien comprendre, oui, c'est que dans le principe, évidemment que la justice est la même pour tous, normalement, oui. On pourrait mettre une petite nuance, c'est qu'il y a un principe fondamental dans notre justice, c'est ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que pour des mêmes faits, le juge va toujours s'intéresser au profil de la personne, son histoire, son insertion, s'il travaille, s'il a une famille. Et qu'en fait, pour les mêmes faits, on peut avoir une condamnation qui est différente en fonction du principe d'individualisation de la peine. Pour vous donner un exemple, c'est pour un vol de sandwich, si on a un SDF qui vole un sandwich en état de nécessité, et de l'autre côté un banquier qui le volerait alors qu'il n'a pas de raison de le faire, en théorie la justice sera plus sévère avec le banquier. Ça c'est la théorie, parce qu'en réalité on se rend compte qu'il se passe exactement l'inverse, que justement la justice va avoir tendance à être plus sévère avec les plus vulnérables, avec les plus pauvres, et ça on aura peut-être l'occasion de le détailler après dans vos questions, mais à travers notamment une procédure emblématique qui s'appelle la comparution immédiate.
Oui. Oui, parce que la cadence de la justice, c'est souvent 15 minutes pour juger. Et après, vous critiquez justement cette comparution immédiate. Peut-être l'expliquer à nos auditoristes, oui, qui ne savent pas forcément ce que c'est.
Donc justement, alors après l'attitude de la police, je me suis intéressé aux différentes procédures. Comment ça se passait de façon concrète dans les tribunaux? Et il y a donc cette procédure qui s'appelle la comparution immédiate. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une procédure accélérée qui peut être décidée par le procureur quand une affaire est en état d'être jugée. Donc ça peut être un flagrant délit, quand on a tous les éléments. En général, ce sont des personnes qui arrivent directement de leur garde à vue, donc qui n'ont pas eu le temps de prendre une douche, qui n'ont pas dormi, qui sont pas en état de se défendre, encore une fois, qui n'ont pas eu de recul nécessaire non plus, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir aux faits, donc en général, on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire quand on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Et alors, ces audiences, elles posent plusieurs problèmes. La première chose, c'est leur rapidité. C'est 29 minutes en moyenne. On comprend assez aisément qu'en 29 minutes, on n'a pas le temps de se défendre. On parlait de l'individualisation de la peine. Le juge ne pourra pas s'adapter au profil de la personne en 29 minutes. Ensuite, il faut s'intéresser aux personnes qui se retrouvent en comparution immédiate. On a le droit de la refuser, la compa, pour prendre le temps de préparer sa défense. Mais la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Ou alors, ils ont trop peur de se retrouver en détention provisoire. Puisque justement, si votre procès est reporté, vous pouvez être incarcéré. Et alors là, c'est là où c'est intéressant, c'est que quels sont les critères pour décider d'une détention provisoire? Le premier, pour pas vous enfermer, on va se renseigner de savoir si vous avez une adresse pour pouvoir vous retrouver si jamais vous ne vous présentez pas à votre procès. Par exemple, les SDF qui n'ont pas d'adresse, eh ben, ils vont systématiquement se retrouver en détention provisoire s'ils refusent leur comparution immédiate. Donc, dans ces audiences de justice d'abattage, on n'a pas le temps de se défendre, on retrouve systématiquement les plus vulnérables, les SDF, les étrangers, les personnes toxicomanes, les jeunes, ceux qui occupent l'espace public et qui sont le plus confrontés à la police en réalité. Et dans ces audiences, et pour conclure, la sociologue Virginie Gautron a montré qu'on a 8 fois plus de chances de se retrouver condamné à de la prison ferme quand on passe en comparution immédiate.
Et vous dites également, les pauvres font peur, pardon. Les pauvres font peur. Est-ce que, selon vous, la justice est plus clémente avec la délinquance en col blanc ?
Alors ça, c'est une certitude. Ouais. Il y a cette petite formule, on dit fort avec les faibles et faible avec les forts. Pendant des années, la délinquance en col blanc, elle a été complètement ignorée par la justice en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une société, les crimes et délits, c'est quelque chose de normal. Il y a toujours des crimes et des délits. On ne peut pas tous les contrôler. On ne peut pas mettre un policier et un juge derrière chaque citoyen. D'ailleurs, les sociétés qui ont essayé de réduire la délinquance à zéro, c'était en général des régimes fascistes. Il faut se réjouir qu'il n'y ait pas de policier derrière chaque citoyen. Donc on est obligé d'opérer un tri, de faire une sélection. C'est le rôle de l'État, c'est ce qu'on appelle une politique pénale. On va choisir les délits et les crimes qu'on va punir en priorité et nécessairement, on va en ignorer d'autres. Pendant des années, on ne s'est pas du tout intéressé à la question des viols, à la question de l'inceste. On est en train de prendre conscience des dysfonctionnements de la justice de ce côté-là. Pendant des années, on ne s'intéressait pas non plus à la délinquance en col blanc. Les délits financiers étaient très peu punis. C'est un petit peu en train de changer de ce côté-là, mais grosso modo, ce qu'on observe depuis une trentaine d'années en France, c'est qu'on va toujours mettre le curseur sur ce qu'on appelle la délinquance de voie publique. Donc,
les trafics de stupéfiants, ça c'est le grand combat de Gérald Darmanin, alors qu'on sait que ces politiques sont parfaitement inefficaces par ailleurs. À l'époque de Sarkozy, c'était le squattage des halls, c'était le racolage passif, la mendicité agressive. En fait, c'est tous les délits qui sont commis dans l'espace public par les plus fragiles. Quand on se focalise sur ce type de délinquance-là, qui est celle qui peut se voir, on donne l'impression d'agir sur le quotidien des Français, mais en réalité, on vise simplement les plus fragiles.
Merci beaucoup. On revient après une petite pause et pour rester dans le thème incarcération, on écoute Petit Sarkozy sort de prison de Spidération.
Petit Sarkozy vient de sortir de prison, c'est trop marrant. Si ce n'était pas aussi désespérant, même Coluche ou des proches n'auraient osé l'imaginer. Sarkozy libéré, délivré, c'est plus de la justice, c'est du Disney, c'est un sketch. Et on paye pour voir ça, camarade, et la basse me dit foutage de gueule, foutage de gueule. C'est façon Madonna USA. Foutage de gueule. T'appelles ça la tôle, moi j'appelle ça un Airbnb, pas une geôle. On lui avait donné room service discret, visite à volonté, téléphone payé, deux flics pour le protéger, chauffage pour le réchauffer. Ou le contraire, c'était Hegedit, justice pour les puissants, yeah. Foutage de gueule, c'est Koh-Lanta version bobo, ta faim. Ta froid, chauffage écolo, foutage de gueule. T'es fatigué, peine à ménager, pendant que le peuple sans avocat se fait tabasser. Petit Sarkozy, le malheureux, t'as su jouer. Les médias sortent la lessive réhabilitation sauvage. Bolloré va s'en occuper. J'ai payé qu'il dit, si ça c'est pas un mensonge, tu fais la même chose, toi tu plonges. Car la balance une phrase lunaire, il s'est élevé, ouais, jusqu'à son canapé. Les juges aussi crédibles qu'une pub pour le café. La justice, un théâtre où il joue le Jésus crucifié. Regarde-les venir, camarades. Les plateaux TV, les micros tendus. BFM, CNews, Paris Match. L'âme en or et confession bidon. Pendant qu'on galère à remplir nos frigos, eux remplissent les talk shows et la basse continue de grogner. Foutage de gueule, foutage de gueule. République à géométrie variable, foutage de gueule. La justice est pitoyable. Sauveur le retour.
sors bronzé de ta détention théâtrale.
Foutage de gueule,
c'est collant ta version bobo, ta faim. On te livre ta froid, chauffage écolo.
Foutage de gueule,
t'es fatigué, peine aménagée. Pendant que le peuple sans avocat.
C'était Petit Sarkozy sort de prison de Speederation. Il est 19h20 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Basile Debure, journaliste qui est venu nous parler de l'état des prisons françaises aujourd'hui.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et c'est une transition toute trouvée parce qu'on a d'abord parlé de la question judiciaire, des biais sélectifs qui jouent un rôle dans les procédures pénales. Mais ça m'amène aussi à parler de la très médiatique remise en liberté de Nicolas Sarkozy, qui n'était pas une affaire de yaourt, mais une décision de liberté conditionnelle normale du fait de sa garantie de représentation dont vous avez parlé juste avant. Et je vous parle de Nicolas Sarkozy parce que toujours dans ce questionnement de si la justice est-elle la même pour tous, titre de votre livre, je me demande si la prison l'est. Pour rappeler les faits, l'ancien président occupait dans les quartiers VIP une cellule en isolement. Il est accompagné de deux de ses gardes du corps dans la cellule d'à côté, bien qu'il ne croise que le personnel de prison et que ses promenades se font seules. Et pourtant, la prison de la Santé a un taux d'occupation de 188%. On va dire un mot juste après sur la surdensité des prisons. Mais avant, que sont ces quartiers spéciaux, VIP ? Ce traitement, pourrait-on le qualifier de faveur ? Et la sécurité de l'ancien président dans ces conditions méritait-elle une visite du garde des pour s'en inquiéter? Et enfin, ce cas de Nicolas Sarkozy nous permet-il de dire que le deux poids deux mesures s'applique aussi à la prison?
Alors oui, c'est important de rappeler que Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un traitement de faveur du début à la fin de cette affaire. Et dans le cadre de son incarcération en particulier, on s'est beaucoup offusqué de l'exécution provisoire de sa peine. Mais c'est quelque chose d'extrêmement banal dans les tribunaux, qu'on voit tous les jours en comparution immédiate, il faut vraiment le rappeler. En France, aujourd'hui, on a un tiers des détenus qui le sont dans l'attente de leur procès, donc qui sont présumés innocents. C'est quelque chose que je dénonce depuis des années dans mon travail. Je me réjouis qu'il ait fallu attendre Nicolas Sarkozy pour que tout le monde s'en saisisse. Il a aussi été envoyé en mandat de dépôt différé. Pareil, différé. Il a eu un mois pour organiser son départ, voir sa famille. Il est même allé au Parc des Princes. On l'a beaucoup pris en photo. Les petits dealers et les cambrioleurs que j'ai en stage de tige, s'ils sont condamnés à de la prison ferme, ils ne peuvent pas aller au Parc des Princes avant d'aller en détention, ça c'est clair. Il était tout seul en cellule. Il avait deux gardes du corps qui devaient être ravis par ailleurs de se retrouver en détention grâce à Nicolas Sarkozy. C'était par ailleurs un beau pied de nez à l'administration pénitentiaire, aux surveillants. C'était comme une façon de leur dire: vous êtes incompétent, je viens avec mon service personnel. Enfin, il n'y a rien calé dans cette histoire. Il faut bien se rappeler qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur. Mais après, je voudrais juste dire une chose, c'est que moi, je suis absolument contre la prison et je me suis réjoui qu'il en sorte. Un homme de 70 ans n'a rien à faire en prison. Donc, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi, mais moi, j'étais très content qu'il sorte.
Oui, on va parler de ce que vous appelez sortir du paradigme de la prison. Mais avant, on va revenir sur la question de la surdensité. Parce que on l'a évoqué en première partie, les prisons françaises connaissent une densité de population alarmante et une insalubrité qui ne garantit pas la sécurité des détenus. Quelles sont les causes et les conséquences de cette situation des prisons françaises ?
Alors ouais, un petit mot sur les conditions. Aujourd'hui, il y a 84 862 personnes dans les prisons françaises pour un peu plus de 62 000 places. Ça fait un taux global de surpopulation de 140% et de 165% en maison d'arrêt. Donc les maisons d'arrêt, ce sont les prisons qui accueillent les personnes pour des peines de moins de 2 ans ou dans l'attente de leur procès en détention provisoire. Donc ils sont à 3 ou 4 par cellule. Il y a plus de 5 000 personnes qui dorment sur des matelas au sol. Il y a des cafards, des punaises de lit, des rats. Les détenus dorment avec du papier toilette dans le nez pour pas que les cafards entrent pendant qu'ils dorment. L'hiver, c'est 11 degrés, donc ils dorment avec les plaques de cuisson allumées pour se chauffer. L'été, c'est 40 degrés. Ils y sont 22 heures par jour. Il n'y a pas d'intimité pour faire vos besoins, ce genre de choses. Une heure, deux maximum de promenade. Seulement 30% des détenus qui ont accès à un travail. C'est terrible. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces conditions inhumaines, en particulier pour les petites peines, elles ne permettent pas d'accompagner les personnes vers la réinsertion. Aujourd'hui, la prison, c'est la peine qui est la plus criminogène, c'est-à-dire qu'elle produit de la récidive. Vous avez aujourd'hui en France un taux de récidive qui est de 60%. On comprend aisément que quand on est incarcéré dans ces conditions sans projet de réinsertion, ce n'est pas l'idéal pour revenir à
à une vie en dehors, enfin dans les clous, je sais pas comment dire. Mais donc voilà, donc il y a un vrai problème d'une prison qui est inhumaine, qui est inefficace, qui coûte extrêmement cher. Une journée de détention, c'est entre 100 et 150 euros par jour et par personne. Alors que les peines alternatives, par exemple, la peine de tige dont on a parlé, c'est 10 euros par jour et par personne. Ça coûte entre 10 et 15 fois moins, et c'est beaucoup plus efficace pour lutter contre la récidive. Donc on est vraiment dans une surenchère sécuritaire et autoritaire absurde qui marche pas, qui est inhumaine et qui coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre.
Oui, parce que sur cette surenchère et sur cette question de la criminogénéité, je sais pas si ça se dit, on a eu aussi les prisons bunker de Darmanin, donc une espèce de test contre le narcotrafic. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Bah, c'est de l'affichage pur et simple. On a tous halluciné de ces propositions. Déjà, c'était drôle quand il annonçait le nombre. Il disait « on va enfermer les 100 plus dangereux ». Ok, pourquoi 100 ? Ça sort d'où ce chiffre ? C'est quoi ? C'est vraiment juste des symboles pour donner l'impression qu'on est sévère, qu'on prend la délinquance au sérieux. On sait que les prisons spéciales, elles ont aucune efficacité. Il n'y a pas très longtemps, on a panthéonisé Robert Badinter. Une de ses premières mesures, ça a été de supprimer les QHS, les quartiers d'haute sécurité. En gros, tout le traitement particulier est beaucoup plus sévère qui est apporté à certains détenus. Toutes les études montrent que ça n'a pas d'efficacité, ça n'a pas d'effet sur la récidive ou sur leur comportement. Et au contraire, encore une fois, ça s'assimile à de la torture blanche. Hein. C'est des conditions qui sont absolument terribles et qui, au contraire, vont créer des situations traumatiques ou une forme de colère et qui va plutôt favoriser les phénomènes de récidive. Donc c'est, encore une fois, inefficace et inhumain. C'est de l'affichage politique.
Je me demande même si la récidive, en fait, elle ne naît pas plutôt dans le manque d'insertion après la prison.
Bah alors, il y a deux choses. C'est que déjà, les politiques actuelles, c'est qu'on s'intéresse qu'au traitement des conséquences. Il y a trop de gens, comment on gère ça ? Donc la solution qu'on va nous proposer, c'est on va construire de nouvelles prisons. Mmh. Or, on sait aujourd'hui, en l'étudiant depuis 50-60 ans en France, qu'à chaque fois qu'on construit des prisons, on les remplit. Ça n'a pas d'efficacité parce qu'on ne s'intéresse pas aux causes. Qu'est-ce qui conduit les personnes à se retrouver face à la justice, à se retrouver en détention ? Donc tant qu'on n'agira pas sur les causes, qu'est-ce qui produit ce résultat ? On aura beau construire des prisons, on continuera à les remplir.
Vous dites que la prison est si intensément ancrée dans nos imaginaires qu'il est impossible de penser sans elle. Pourtant, vous appelez à sortir de ce paradigme pour un jour peut-être une société sans prison. Quelles sont les alternatives ?
Alors, il y a deux courants qui s'opposent sur cette question. Je vais d'abord vous parler du courant déflationniste, c'est-à-dire les gens qui veulent qu'on réduise la population carcérale. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a par exemple les peines alternatives, dont on a parlé tout à l'heure, les tiges, le bracelet, la semi-liberté, le placement à l'extérieur, les jours amende. En fait, on a tout un arsenal de peines, en particulier pour les petits délits, qui sont beaucoup plus efficaces et moins chers que la prison, qu'on ne connaît pas et qu'il faudrait mettre en avant. Il y a l'instauration de ce qu'on appelle un numerus clausus. Il faudrait revenir à un principe de la loi, une place de prison, une personne dedans. Donc, quand on doit faire entrer une nouvelle personne, on réfléchit à qui on pourrait faire sortir. Une personne proche de la fin de sa peine qu'on sortirait en respectant un taux d'occupation de 100%. Il pourrait y avoir la dépénalisation de certaines infractions. On n'arrête pas de créer des nouveaux délits qui sont passibles de prison. Il faut qu'on arrête d'être dans cette surenchère, et en particulier sur la question des trafics de stupéfiants. Encore une fois, des politiques qui sont inefficaces et qui embolissent complètement notre système carcéro-judiciaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bah, travailler sur les causes, donc les inégalités sociales. Grosso modo, là, si on résumait la politique pénale de nos gouvernements, c'est lutter contre les pauvres plutôt que de lutter contre la pauvreté. Si on réduit les inégalités sociales, qu'on trouve du travail aux gens, on fait mécaniquement diminuer les délits et la délinquance. Donc c'est comme ça qu'on va réduire la population carcérale. Et après, l'autre mouvement, ce serait un mouvement abolitionniste, des gens qui sont pour la disparition de la prison. Donc ça, comme vous le disiez, c'est difficile parce que la prison est extrêmement ancrée dans nos imaginaires. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à une société sans prison ?
Et justement, sur quel principe philosophique ou moral se fonde la privation de liberté ?
Ah bah, je sais pas si... Ouais, c'est... En fait, on est dans une logique de vengeance collective. C'est vraiment ça l'idée. C'est qu'on a envie de faire souffrir la personne. Et en fait, quand je parle de l'inhumanité de la prison, il y a des gens qui me disent « bah c'est pas grave, ils l'ont bien cherché, ils n'avaient pas qu'à commettre un crime ou un délit ». Il y a vraiment quelque chose de la vengeance collective. Et c'est comment est-ce qu'on sort de ce paradigme-là ? Et il faut vraiment avoir quelque chose en tête, c'est que l'effet dissuasif n'existe pas. Il n'y a pas de lien entre la sévérité d'une peine et le crime ou le délit qui lui est associé. C'est pas en mettant des peines de plus en plus sévères qu'on va faire chuter un crime ou un délit. C'est un peu contre-intuitif. Mais en fait, ça n'a pas du tout d'effet sur le moment du passage à l'acte. Quelqu'un qui décide, enfin qui a bu et qui prend le volant, il va pas se dire à ce moment-là, ah attends, ils ont fait passer la peine de 4 ans à 3 ans, je vais pas prendre le volant. Non, en fait, il réfléchit pas du tout à cette chose. On le voit aussi par exemple dans l'exemple de la peine de mort. Quand on a aboli la peine de mort en France en 81 par Robert Badinter, il y a beaucoup de gens qui disaient, bah les crimes vont exploser parce que les meurtriers n'auront plus peur de la guillotine. En fait, il s'est passé exactement l'inverse. On a vu que les crimes depuis 81 n'ont cessé de diminuer en France. On peut regarder aux États-Unis, un pays qui applique la peine de mort et qui a le taux de criminalité le plus élevé par habitant au monde. En fait, l'État, il montre l'exemple. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a la peine de mort, quand on tue, on légitime l'acte de tuer. Pareil, donc, en continuant à appliquer des méthodes qui sont vraiment inhumaines, comme l'incarcération, qui par ailleurs n'a quasiment pas évolué depuis le Moyen-Âge, hein, faut vraiment se rendre compte, eh ben, on montre un exemple d'inhumanité.
J'aimerais qu'on parle pour finir de la part des discours des médias dans cette incapacité à sortir de ce paradigme. Ils cèdent à ce que vous appelez cette frénésie sécuritaire, à cette déshumanisation des racailles, auxquelles je mets des guillemets car je cite Nicolas Sarkozy. Mais sur quoi s'appuient ces discours, sachant que vous rappelez en 2023 sur France Culture que la délinquance n'augmente pas depuis les années 80?
Oui, exactement. On est vraiment dans une surenchère médiatique. C'est ce que le sociologue Laurent Mukeli appelle la frénésie sécuritaire, qui s'appuie sur 5 piliers. D'abord, c'est ce qu'on appelle la dramatisation. La dramatisation du moindre fait divers qu'on va monter en épingle, qu'on va mettre sur le devant de la scène, alors même qu'ils augmentent pas forcément. Mais ça va contribuer à créer ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. La deuxième étape, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire que les responsables de ces faits divers, on va les désigner comme des monstres pour couper complètement l'empathie à l'égard des personnes condamnées. Et c'est vraiment ce que Nicolas Sarkozy faisait quand il parlait des racailles et du Karcher, tout ce vocabulaire issu de l'extrême droite et qui visait à déshumaniser, grosso modo, les jeunes racisés des quartiers populaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la criminalisation. On va sans cesse créer de nouveaux délits pour que certains soient punis de prison. La disciplinarisation, c'est-à-dire qu'on va systématiquement envoyer la police dans certains quartiers avec les contrôles aux faciès dont on parlait au début de l'émission. Et le refoulement, ça c'est la dernière étape, le refoulement de la question sociale, des discriminations, de la question de la ségrégation. On va mettre sous le tapis, encore une fois, tout ce qui concerne les causes de la délinquance pour uniquement s'intéresser à la façon dont on la punit. Et en fait, les médias sont nourris par ce discours politique depuis 30 ans et ils leur emboîtent le pas. En fait, c'est beaucoup plus facile de parler d'un fait divers dramatique. Le cadrage est simple, quand on a une minute pour parler de quelque chose, il y a un méchant, une gentille victime et on emballe le truc en quelques secondes. Les questions de justice, elles sont beaucoup plus complexes dans certains JT ou dans les chaînes d'infos en continu, on n'a pas le temps de la complexité. Et par ailleurs, c'est compliqué, donc ça saoule les journalistes. Il y a quelque chose qui était intéressant dans l'affaire Sarko. Fabrice Arfi expliquait qu'ils étaient que 2 journalistes à avoir suivi les audiences du début à la fin. Ils ne viennent pas les journalistes en audience, ça ne les intéresse pas, c'est complexe. Donc c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur le fait divers. C'est simple, ça fait de l'audience. Et on est dans un cercle vicieux qu'il va falloir vraiment briser. Et les journalistes ont une grande responsabilité là-dedans.
Merci beaucoup, Basile de Bure, d'avoir été avec nous pour cet entretien. Et on revient
merci
après une petite pause musicale. On écoute Typical Girls de The Slits. C'était Typical Girls, The Slit. Il est 19h36 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et maintenant, Gabrielle va nous parler du match Palestine-Pays Basque. On t'écoute.
À l'heure où les sélections nationales s'affrontent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de football, qui se tiendra l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est un tout autre match qui s'est joué ce samedi 15 novembre. Loin des enjeux sportifs mondiaux, le stade Saint-Mamès de Bilbao a accueilli la rencontre entre le Pays Basque et la Palestine dans un match amical. Devant plus de 50 000 spectateurs, les Basques se sont imposés 3-0. Pourtant, l'enjeu n'était pas dans la performance sportive, mais dans la portée symbolique et politique de cette confrontation. Parmi les instants les plus marquants de la soirée, l'entrée des joueurs restera gravée. Les joueurs basques sont entrés accompagnés d'enfants, tandis que le joueur palestinien portait chacun une rose blanche en hommage aux enfants victimes du conflit. Ce match a eu lieu dans un contexte où la sélection palestinienne est privée de rencontres internationales sur son sol depuis près de 6 ans. Le président de la Fédération palestinienne de football a rappelé que depuis le premier jour du conflit, les infrastructures sportives palestiniennes sont systématiquement bombardées, au point que plus aucun club ne peut fonctionner aujourd'hui. De nombreux sportifs ont également été blessés ou tués, dont l'ex-capitaine de la sélection nationale, Souleymane El Obed, surnommé le Pelé palestinien, tué dans des frappes israéliennes. L'équipe a donc trouvé au Pays Basque un terrain d'accueil, permettant ainsi de réunir deux équipes partageant une quête d'indépendance. Les tribunes ont offert un spectacle rare. Drapeaux palestiniens, keffiyeh, pancartes et banderoles recouvraient unanimement les gradins. Un message sans équivoque est affiché aux côtés des drapeaux basques et palestiniens. Stop au génocide. Quelques instants plus tard, une autre phrase exprime cette quête de la sélection palestinienne. Dignité, liberté, paix. Les chants résonnaient en soutien à la Palestine, mêlés aux encouragements classiques du football. Les hymnes ont été acclamés. Pour beaucoup, entendre l'hymne palestinien résonner dans un stade européen a relevé d'un geste diplomatique fort, dans une période où l'existence de l'État palestinien reste ouvertement disputée sur la scène internationale. Enfin, le sélectionneur palestinien a résumé l'esprit de la rencontre en ces mots. Nous sommes ici en mission pour délivrer un message au monde entier. Le peuple palestinien mérite de vivre avec dignité. L'événement portait également une dimension humanitaire. L'intégralité des bénéfices de la billetterie a été reversée à des organisations œuvrant à Gaza, notamment Médecins sans frontières. À la fin de la rencontre, les joueurs des deux équipes ont célébré côte à côte face aux supporters, offrant une image d'unité destinée au monde entier. Ainsi, le stade de Bilbao a été bien plus que le théâtre d'une simple rencontre sportive. L'histoire de la sélection palestinienne sur le sol européen ne s'arrête pas là. Après Bilbao, elle est reçue en ce moment même par la Catalogne pour un nouveau match amical, cette fois-ci à Barcelone.
Merci beaucoup Gabrielle. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, Léo Jouvelet est en ligne avec nous. Il est programmateur de l'Ici Demain Festival. Et à mes côtés pour ce Zoom, Rania qui va mener cette interview. Salut.
Salut. Bonjour Léo, merci de votre présence ce soir avec nous.
Bonjour.
Alors Léo, on avait une première question pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'être programmateur au sein d'une structure pluridisciplinaire comme le FGO Barbara ?
Alors, pluridisciplinaire, c'est pas tout à fait ça. Nous, on est une salle de musique actuelle, donc on programme principalement de la musique et des jeunes artistes. Et donc on s'intéresse au développement artistique, donc globalement on travaille avec des jeunes projets en devenir.
Ok. Pourquoi avoir choisi de rejoindre la direction et le service de programmation de FGO Barbara ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y lancer ?
Oh bah la passion, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement passionné de musique et voilà, de découvrir des nouvelles choses en permanence.
Parce qu'avant l'ouverture de ce chapitre au cœur du quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris, vous développiez à partir de 2015 une branche spécialisée dans la musique électronique et hip-hop qui s'appelle Mad Divisions, et cela au sein même de la maison de production Mad Minute Music, qui elle a été fondée en 88. On voit que vous tenez beaucoup à l'aspect de l'originalité d'un projet, et que c'est ce critère qui vous guide dans votre travail. Est-ce que vous avez cherché du coup cette originalité en rejoignant FGO Barbara ?
Oui, concrètement oui. C'est un lieu qui a toujours accueilli l'émergence, qui a toujours travaillé avec des artistes. ils ont un pôle de création artistique qui soutient des projets depuis très longtemps. Et forcément, ça a animé notre volonté de vouloir continuer ce travail et de l'approfondir.
Est-ce que vous notez des différences entre Mad Divisions et FGO ?
Oh, ça n'a rien à voir, c'est un producteur de spectacle, donc là on s'engage sur le long terme avec des artistes. Là c'est plus sur un an où on va aider à développer un projet, essayer de lui trouver un entourage, aussi le faire travailler en live, sur le disque, sur l'entièreté des musiques, enfin des métiers autour de la musique.
À FGO Barbara, il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes reggae qu'on a notamment pu voir sur la scène FGO le week-end dernier, ou encore d'autres artistes mélangeant plusieurs genres, à l'image de Yalifé par exemple, qui est complètement inclassable et qu'on a d'ailleurs pu interviewer ici à Radio Campus. Est-ce que c'est ça finalement la richesse de FGO ?
Ah bah oui, oui, complètement, la diversité. Nous, on essaye de rassembler autour de toutes les musiques actuelles, que ce soit le rap, le reggae, le rock, l'électronique, le jazz, la chanson. On travaille sur toutes les esthétiques.
Du 19 au 21 novembre se tiendra donc la 6e édition d'ici demain festival, qui se déroule au sein de FGO Barbara. Et c'est vous qui avez contribué à le créer, du coup ?
Oui, oui, complètement. Moi et la direction, bien sûr, c'était une volonté en s'appuyant, comme je disais, sur le pôle de création artistique. On a la chance et l'opportunité de travailler avec plein de projets tous les ans super, et on a beaucoup, beaucoup de candidatures. Et du coup, on s'appuie beaucoup sur ce pôle qui travaille avec eux sur les lives, la mise en place de leur suite de carrière. Et du coup, on a voulu créer un temps fort au sein d'FGO, tout simplement pour pouvoir les mettre en avant dans les meilleures conditions. Donc au sein de ce pôle, non seulement on travaille avec les projets qu'on soutient tout au long de l'année, mais aussi tous les projets qu'on programme au sein d'ici demain, on leur propose de venir répéter, de venir rencontrer des gens de notre équipe pour savoir s'ils ont besoin de soutien supplémentaire pour préparer au mieux le concert, tout simplement.
Et donc, ce dispositif d'accompagnement, est-ce qu'il est accessible à tous et à toutes ? Est-ce qu'il est payant ? C'est sur candidature, j'imagine, qu'il doit y avoir beaucoup de demandes.
C'est sur candidature. On a à peu près entre 800 et 1000 candidatures par an. On prend 10 à 15 projets. Alors, il faut être résident à Paris, parce que nous, on est une salle soutenue par la mairie de Paris. Notre mission est de soutenir la jeune création parisienne.
La Goutte d'Or, c'est un quartier où la jeunesse occupe une place importante. Est-ce que ça contribue à expliquer votre choix d'axer ces dispositifs et cette programmation sur les jeunes artistes ?
Oui, forcément, parce que ce quartier, il y a beaucoup de création. Beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, donc forcément. Notre mission, elle est élargie forcément, mais bien sûr, ça joue énormément.
L'objectif de FGO Barbara en général et donc de Ici Demain Festival, c'est quand même de donner une opportunité, une visibilité, une première expérience professionnelle dans le domaine de la musique.
Oui, ça fait partie de nos missions premières déjà dans la diffusion. Donc ce qu'on appelle la diffusion, c'est tout simplement de programmer des concerts et donc des jeunes artistes. Effectivement, nous, c'est notre mission principale. Puis après, on a plein d'autres pôles. On travaille avec l'action culturelle et sociale. On a plein de projets autour de la jeunesse, mais aussi des seniors, où on fait beaucoup de projets pour l'accessibilité à la culture. Et en essayant d'être le plus accessible possible, voire gratuit. C'est ça principalement nos missions.
Est-ce que vous pouvez donner certains exemples des actions culturelles que vous menez ?
On en a plein. On travaille au sein du collège Meilleur, qui est un peu plus haut entre La Chapelle et La Goutte d'Or, où on travaille avec des classes, avec des profs de musique et des artistes qui sont associés à ces projets, donc pour tout simplement découvrir, la MAO ou certains instruments, ou travailler autour d'un enregistrement. Souvent, on en fait des rendus, des visites. Il y en a d'autres dans des hôpitaux. Il y en a beaucoup. On travaille aussi beaucoup en lien avec les associations du quartier, où on fait un autre événement temps fort qui s'appelle le Magic Barbès, qui est un autre festival. Donc voilà, il y en a beaucoup, il y en a énormément.
Organiser un festival musical de 3 jours, c'est quand même beaucoup de travail. Combien faut-il de personnes pour qu'un projet comme celui-ci voit le jour? Combien il y a de personnes dans l'ombre que l'on ne voit pas forcément?
Oh bah là, toute l'équipe est impliquée, hein, que ce soit la production, la partie technique. On embauche aussi des intermittents, des coachs pour travailler sur la technique, donc sur le son, la lumière. Il y a toute la partie installation. Il y a la communication. Tous les pôles sont vraiment, l'administration évidemment, tous les pôles sont complètement intégrés à ce projet. C'était aussi l'envie de créer cet infort pour l'équipe, mais aussi pour les artistes et pour le projet en règle générale.
Vous, personnellement, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous devez programmer un festival? Quel est votre processus de réflexion?
Ça dépend du projet, ça dépend du festival, mais en tout cas, sur Ici Demain, là, en particulier, nous, l'angle, c'était vraiment autour des premières scènes. Alors, première scène, voilà, on s'entend, mais c'est les quelques premières scènes. Donc, c'est vraiment d'être dans la nouveauté, de faire découvrir des nouveaux projets qui, pour nous, à notre sens, va sûrement faire du bruit demain.
Est-ce que vous avez des artistes qui ont frôlé la scène du FGO Barbara et donc du festival Ici Demain Festival, qui ont par la suite ont vu leur popularité se décupler et être reconnus à l'échelle nationale, des artistes vraiment qui ont percé? Je sais par exemple que Zao de Sagazan était l'une des artistes programmées en l'occurrence par vous durant la 3e édition d'Ici Demain Festival en 2021.
Ouais, alors c'était la seconde édition, mais oui, Zao y a joué. Alors, je pense pas que ce soit parce qu'elle a joué Ici Demain qu'elle est devenue nationalement connue, mais en tout cas, elle y a joué. Ouais, c'était un de ses 5e concerts. Il y a aussi Yoa, dans un autre style, on a eu TH, on a eu les Kids Return, Benjamin Epps, Surprise, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Sur ces 6 dernières éditions. Donc oui, il y en a quelques-uns qu'on franchit quelques étapes, oui, ça c'est sûr.
Vous pouvez avoir quand même le don de découvrir des artistes émergents et qui ont un fort potentiel avec ce festival. Est-ce que vous vous dites toujours qu'ils et elles pourront percer par la suite?
Je sais pas, en tout cas je leur souhaite, parce que c'est leur rêve et c'est leur envie. Et qu'ils ont envie de faire découvrir leur musique et de faire passer leur message. Donc, je sais pas, l'objectif, c'est de mettre des projets qualitatifs et qu'on en vit en avant. Après, est-ce qu'ils perceront, ça sera à eux et au public d'en décider.
Eh bien, on espère que tous ces artistes perceront. Justement, sur le festival, qu'est-ce que ça veut dire Ici Demain? Pourquoi avoir nommé ce festival Ici Demain Festival? Est-ce qu'il s'agit d'une dimension de constante adaptation et de développement, comme vous le dites, d'une politique culturelle que veut transmettre FGO Barbara par les diverses actions culturelles et les diverses programmations et festivals?
Oui, et puis aussi, juste avec ces deux mots, ici, demain, c'était du coup la musique de demain et ici, chez nous, à FGO, à Barbès, dans le 18e. Donc pour nous, ça avait ce sens et ça reflétait effectivement un peu tout le travail qu'on fournit à l'année.
Est-ce que cette 6e édition sera différente des précédentes? Y a-t-il des nouveautés cette année?
Non, on va rester sur nos basiques. On reste sur quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, il y a 2 scènes qui s'alternent l'une à l'autre. Il y aura 8 projets par soir. C'est des showcases de 30 minutes qui vont s'écouler de 20h à minuit. Et l'objet, c'est de pouvoir voir tous les concerts. Donc non, on va rester sur un format qui fonctionne très bien et dont on est très fiers.
Et en parlant de fierté, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre travail aujourd'hui?
Je crois que c'est c'est de voir toute mon équipe qui s'implique le plus possible dans ce projet et aussi la fierté d'avoir des magnifiques artistes qui nous font confiance et qui viennent se mettre à nu devant le public.
Merci beaucoup Léo Jouvelet d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle, le festival a lieu du 19 au 21 novembre à la FGO Barbara dans le 18e arrondissement de Paris, tous les soirs de 20h à minuit. Et on écoute tout de suite 10 mois d'Elisa Kwame qui jouera jeudi soir au festival.
Merci.
Ta voix, ton cou, j'essaie d'oublier son pouet. J'ai chaud, j'avoue, je sais mes mots se nouent, mais je fais au mieux, à défaut d'être à deux, baby. Parle-moi un peu de nous. Ouais, dis-moi où poser mes yeux quand tu me souris. Je ne sais plus trop où regardez, je sens bien que je rougis. Bien ton temps, dès que tu me sens partir, tu le sais. Comment me faire courir quand je m'en vais? Comment me retenir? Tu me connais. Oh. Alors dis-moi où poser mes yeux quand tu me souris. Je ne sais plus trop où regarder, je sens bien que je rougis. Si c'est vrai, pourquoi je pense encore et toujours à lui? Je ne te suis plus du tout. Oh, oh, de vous, de mon cœur se méfie. Ouais. Quand je te vois, je perds pied, tu m'embarques. Tu me serres dans tes bras, moi je veux que tu m'écartes. Quand je te vois, je perds pied, tu m'embarques. Tu me serres dans tes bras, moi je veux. Mes yeux quand tu me souris, je ne sais plus trop où regardez, je sens bien que je rougis. Si c'est vrai, pourquoi je pense encore et toujours à lui? Je ne te suis plus du tout. Oh, oh, de vous, de mon cœur se méfie. Ouais. Oh, posez mes yeux quand tu me souris, je ne sais plus trop où regardez, je sens bien que je rougis. Si c'est vrai, pourquoi je pense encore et toujours à lui? Je ne te suis plus du tout, oh, oh, de vous, de mon cœur se méfie, ouais.
C'est presque la fin de cette matinale, mais pas tout à fait, puisqu'Agathe est toujours avec nous. Et tu vas nous parler aujourd'hui de l'impact des coupes budgétaires sur les radios associatives. On t'écoute.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Le projet de loi de finances sur la sécurité sociale et ses 200 amendements a repoussé celui de 2026. Mais l'Assemblée nationale n'a que quelques jours pour l'adopter en première lecture. Sans adoption du PLF par le Parlement, le gouvernement pourrait mettre en œuvre le budget par ordonnance jamais encore utilisé dans la Ve République. Et ce projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit pas seulement de taper sur les pauvres et les malades, mais aussi sur la culture. La culture alternative, la culture libre, la radio libre, ou autrement dit, la radio qui n'est pas soutenue par Lagardère ou Bolloré. Déjà, le projet de holding France Média, fusionnant France TV, Radio France et l'INA, nous avait alarmés. Voté au Sénat en juillet, désormais en suspens au Parlement, ce projet répondait à une baisse de productivité, je le dis à dessein entre guillemets, le mot productivité des médias publics, alors que France Inter enregistrait un taux d'audience record. Ce projet, il divise, mais il est surtout symptomatique de la situation de l'information en France. Comment produire une information libre? Comment produire un journalisme déontologique quand le financier menace? La situation des médias en France est critique et critiquable. Le taux de confiance des Français dans les médias traditionnels est très bas. Selon certains rapports, il est de seulement 31%. Un sondage France Soir indique que 44% des Français privilégieraient les médias alternatifs pour s'informer. Et pourtant, les ondes que vous écoutez en ce moment sont menacées. Je répète, les ondes que vous écoutez en ce moment sont menacées et ce n'est pas un message codé. Ces 750 radios libres sont en partie animées par des bénévoles, mais font aussi vivre presque 3000 emplois. Aligre FM, sur France Info, disait ne plus pouvoir rémunérer aucun de ses journalistes désormais, faute de moyens. Pour beaucoup de journalistes avec lesquels j'ai échangé, il est difficile de vivre de son métier. Beaucoup choisissent la pige, pas forcément par choix, car la précarité, qu'on se le dise, c'est pas très sexy. La baisse de 44% des 16 millions d'euros de fonds de soutien à l'expression radiophonique menace l'économie de la radio libre en France. L'État signe son arrêt de mort. Ce fonds, c'est 60% en moyenne du budget des radios associatives. Alors que tout le monde doit faire des économies en 2026, ce n'est pas aux milliardaires que l'on demanderait l'impôt Glucksmann, petite épingle dans leur paire de Finsbury. Et c'est encore moins les 40,9 milliards de budget de la défense qu'on irait ponctionner à la faveur de la culture. Car c'est ce monde, c'est ce paradigme dans lequel nous vivons. L'économie libérale n'aime pas la culture quand elle n'est pas financiarisable.
Merci Agathe. C'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à nos invités, Basile Debure et Léo Jouvelet. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale. Agathe, Gabriel et Rania. Merci à Joé qui était ce soir à la réalisation. Merci à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale. C'était Juliette à l'animation. Restez bien sur Radio Campus. Tout de suite, c'est Sound Power jusqu'à 21h. Et surtout, retrouvez-nous demain, même lieu, même heure, 19h pétante, pour une nouvelle matinale.